Voici ce que nous dit le psaume 16. Dieu garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, c'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisent tant, augmentent leur ravage. On se rue à leur suite, mais je ne leur offrirai plus de libation de sang et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, tu tiens mon destin, le sort qui m'échoit est délicieux, la part que j'ai reçue est la plus belle. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit ma conscience m'avertit, je garde sans cesse le Seigneur devant moi, comme il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte et ma chair demeure en sûreté. Car tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. Tu me fais connaître la route de la vie, la joie abonde près de ta face, à ta droite, les délices éternels. Donc c'est le psaume 16, vous voulez le relire tranquillement. Vous voulez vous accueillir les uns et les autres avec ce psaume qui est un psaume de fidélité et de louange, hein, qui met en avant la vie et la joie d'être en présence de Dieu. Et j'espère que les uns et les autres, vous êtes dans la joie de la présence du Seigneur en ce dimanche matin. Alors, je sais qu'il y en a qui sont habitués, évidemment, à ces lieux, mais d'autres le sont peut-être un petit peu moins. Je pense aux amis catholiques qui sont de passage, par exemple, parce qu'il y en a quelques-uns. Je pense bien sûr aux familles des baptisés, familles Luez et Chambris. Donc on verra ça dans quelques minutes. Et puis évidemment, j'accueille tout particulièrement Christophe Cousinier, qui nous vient de quelque côté, du côté du Vidourle. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le Vidourle, c'est un petit machin qui est à sec en été et qui déborde en hiver. Voilà, et c'est à peu près ça. Et ça fait un drôle d'effet parce que en été, le ruisseau est très très bas et les ponts sont très très hauts, précisément pour laisser passer les crues. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans tous les cas, bienvenue aux uns et aux autres. Christophe, tout à l'heure, nous servira à la parole de Dieu. Et c'est un grand plaisir de t'entendre avec toutes ces familles qui sont présentes et ces enfants qui sont présents et toutes celles et tous ceux qui sont ici dans ce temple pour partager la même joie, la même présence. Et ça, c'est quand même une grâce. Voilà, le fait qu'on soit d'horizons différents, je trouve que c'est tout à fait formidable parce que le genre humain est riche, il est vaste. Et les uns et les autres, en se mettant ensemble, on arrive à peut-être créer quelque chose d'intéressant dans les échanges, dans les accueils réciproques, que sais-je encore. Et dans un monde qui est souvent marqué par la division ou la concurrence, de se retrouver ensemble autour du Seigneur, c'est véritablement quelque chose d'assez formidable. Et j'espère, comme le dit le psaume, la joie abonde dans vos cœurs, évidemment, mais j'en suis absolument certain. Alors, pour vivre ce moment de culte, on ne prendra pas les chants liturgiques, donc pas de livret bleu. On ne prendra que le recueil « Nos cœurs te chantent ». Et on va rester dans la joie avec le psaume 81, que vous connaissez bien. Tous les cantiques sont très connus. Hein. Si vous ne les chantez pas, ça ne va pas. Hein. Et tout le monde retourne au caté, ce n'est pas compliqué. Je tire. Donc, le psaume 81, c'est la strophe 1, 2 et 7. 1, 2, 7 du psaume 81. Père, merci pour le témoignage de ce psaume 16 et de ce psaume 80 qui disent leur joie d'être en ta présence, de sentir qu'on n'est jamais seul, de sentir que tu nous portes dans nos vies. Oui, c'est peut-être cela la grâce, cette impression diffuse que nous avons que tu es là, que ton ombre se mêle à la nôtre finalement. Peut-être ça, la grâce qui fait qu'il y a une joie qui se communique. Mais Père, malgré tout le plaisir que nous avons d'être ici, la joie d'être ensemble avec toi et avec ces enfants qui seront baptisés tout à l'heure et leur famille, tu sais que nos vies ne sont pas toujours parfaites, loin de là. Des soucis nous envahissent, des préoccupations parfois futiles sont là, qui viennent brouiller la communication avec toi, trop souvent repliés sur nous-mêmes plutôt qu'ouverts aux autres, à la variété du monde, à sa richesse. Oui, Père, pardonne-nous lorsque nous éloignons de notre horizon ta présence. Et pourtant, quoi que nous fassions, tu es là, avec nous dans nos cœurs, pour nous entraîner toujours sur des routes nouvelles, des routes de vie, comme le dit le psaume 16, des routes où ton soleil brille, où ta présence est là pour nous accueillir tels que nous sommes, pour nous réparer, pour nous redresser, pour nous dire un message d'espérance, de joie et d'amour. Merci Père pour ta présence, et permets-nous qu'en toute simplicité, dans ce moment de silence, nous puissions te remettre dans le secret toutes nos vies. C'est dans la certitude d'avoir été reçus par Dieu tel que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos joies, nos peines, nos doutes et nos certitudes, qu'en pleine confiance, nous pouvons partager notre confession de foi. Seigneur Dieu vivant, nous confessons ton nom comme Dieu de la vie. Parole vivante, parole libératrice, appel, joie et projet. Par les prophètes et par Jésus-Christ, tu nous montres ce que sont ta fidélité et la grâce qui touchent chaque être vivant ici-bas. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, par ton esprit, tu affirmes ta présence dans ce monde que tu sauves du chaos, et nous te rencontrons dans le partage de ta parole, dans le regard de l'autre, dans des gestes de la vie, dans un morceau de pain rompu, dans l'accueil d'un enfant. Fort dans ta faiblesse, nous savons qu'en Jésus-Christ, tu nous libères de toute peur, que tu permets le face-à-face avec toi. Nous savons que tu nous appelles à vivre une vie d'éternité, et en tout cela, nous reconnaissons avec Jean que tu es amour, avec Paul que tu es liberté, et avec l'Apocalypse que tu es notre espérance. Amen. Depuis des temps très très anciens, quand il y a des baptêmes, eh bien le baptême était lié à la confession de foi. Parce que le baptême est entre autres une adhésion à la communauté ecclésiale et que donc il était normal de dire que cette communauté ecclésiale ayant une confession de foi, on adhère à cette confession de foi, plus ou moins. Il y a quand même des articles qui ont peut-être résonné en vous. Il y en a peut-être d'autres qui ne vous ont rien dit. Certains ont peut-être regretté qu'il n'y ait pas eu le symbole des apôtres, après tout, pourquoi pas. Ou d'autres confessions de foi, parce qu'il y en a mille et une de confessions de foi. Mais il était normal de lier le baptême à la confession de foi. Alors pour introduire ce baptême, je vais vous lire un texte qui est tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et voici ce que dit ce texte, qui est très court. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, voilà qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu aies bonheur et longue vie sur terre. Et vous, les parents, ne révoltez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Il est assez rare d'introduire un baptême par l'épître aux Éphésiens du chapitre 6, parce que ce qui précède, ces femmes, soyez soumises à vos maris, qui a fait couler des tonnes d'encre, parce qu'en général, on coupe le verset en deux, d'un côté, femmes, soyez soumises à vos maris, et souvent les hommes oublient la deuxième partie, qui est Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Vous voyez, donc d'un côté, il faut aimer ses maris, mais de l'autre côté, il faut aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, réfléchissez bien, messieurs, à cela. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les enfants, on a un peu la même chose. Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère, dit l'Épître aux Éphésiens. Pour votre gouverne, pour le monde juif, c'est une des paroles, parmi les 10 paroles, une des paroles qui est la plus importante, si ce n'est la plus importante pour eux. Hein, parce que la tradition familiale, la transmission, etc., c'est quelque chose d'absolument essentiel pour le monde juif. Et donc, lorsque Paul cite cette parole, c'est vraiment quelque chose qui a du poids, véritablement. Donc, les enfants, obéissez à vos parents. Tous les parents du monde signent là, pas de problème, évidemment. Mais vous, les parents, il ne faut pas énerver vos enfants. Là, c'est difficile. Et tous les adolescents du monde vont signer là. Oh. Hein, voilà. Il y a toujours une contrepartie. Hein. La parole de Dieu, elle se vit dans une rencontre. Et c'est ce que dit un peu ce texte, une rencontre dans laquelle il y a un amour partagé finalement, dans une tradition locale qui est celle d'il y a 2000 ans. Donc il ne faut pas demander aux gens d'il y a 2000 ans de penser comme aujourd'hui. La preuve, c'est que Paul prend le système économique tel qu'il est, ne se pose pas la question de savoir si on est dans le libéralisme, le communautarisme, le communisme, enfin je ne sais pas trop quoi. Il dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres ». Donc, vous voyez, là, c'est un truc qui ne passe plus, hein, je veux dire, depuis le 19e siècle, l'esclavage a disparu des pays occidentaux. Donc, voilà, là, on se dit, mais qu'est-ce que raconte Paul ? Mais Paul, il est dans son temps. Mais vous, les maîtres, c'est pareil, soyez justes avec vos esclaves. Et la contrepartie est là aussi. C'est-à-dire que Paul prend la société telle qu'elle est, et dans cette société, il injecte avec la seringue de la parole quelque chose qui est de l'ordre de l'amour de Dieu qui doit finalement gérer, faire vivre, dynamiser les relations entre les uns et les autres. Alors voilà, enfants, obéissez à vos parents et vous les parents, ne révoltez pas vos enfants. C'est un programme qui finalement n'est pas si mal que ça. Et j'en discutais avec quelqu'un qui était une psychologue qui me disait que ce verset devait être lu par bien des gens. Voilà. Donc vous avez choisi ce verset du chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens pour introduire le baptême. Mais le baptême a été évidemment fondé par Jésus-Christ lui-même, d'après l'évangile de Matthieu. Tout à fait à la fin de cet évangile, il est dit: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi le baptême, si ce n'est pour obéir ainsi à une parole biblique? Mais là aussi, il faudrait dépasser cette obéissance un petit peu pour voir de quoi il retourne. Quand j'ai des enfants de 5-6 ans qui demandent le baptême par l'intermédiaire de leurs parents, je leur dis le baptême, c'est un signe, comme quoi on appartient aux copains de Jésus. Voilà. Pas compliqué, c'est ce que je leur dis, hein, comme une sorte de badge qu'on mettrait ou quelque chose comme ça. Voilà, on se reconnaît dans la mouvance de Jésus. Parce que Jésus a prêché dans le sens de l'amour, de la vie, etc. Mais c'est vrai que le baptême, c'est un peu ça. C'est aussi le fait qu'on est posé dans son existence. Les enfants qui vont être baptisés seront nommés par leur prénom, pas par leur nom de famille, mais vraiment par leur prénom, c'est leur identité à eux, à elles plutôt, parce qu'ils sont deux petites filles. Et donc le baptême nous rappelle que nous sommes vraiment posés par Dieu dans la vie, hein, avec nos caractères, etc. Et je crois que c'est important, parce que souvent, on a du mal à se situer, savoir qui on est, etc. Le baptême va dans le sens d'un apaisement de ces questions. Mais surtout, le baptême, c'est le signe d'un amour de Dieu. Le fait de baptiser des enfants qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit, ils vont peut-être réaliser qu'il se passe quelque chose autour d'eux, certainement. Mais le sens du baptême pour ces enfants, c'est signifier véritablement l'amour de Dieu pour eux. Elles ne savent pas qui est Dieu, encore moins peut-être qui est Jésus-Christ. La Bible, je n'en parle pas, même pas, mais l'amour de Dieu est là pour elles. Voyez, et c'est ce qu'on signifie à travers l'acte du baptême. L'eau est là pour nous signifier un renouveau de la vie, une renaissance, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement fort. Voilà à peu près le sens du baptême. Vous avez sûrement d'autres choses à dire, mais comme tout ce que nous partageons ici, ce sont des réflexions qui sont toujours ouvertes, bien évidemment, hein, pour qu'on puisse continuer à vivre, à partager, à remettre en cause ou adhérer à ce qui a été dit et vécu. Alors, je vous invite maintenant, les familles de Claire et de Bérénice, les parents, parrains et marraines, à venir là-bas. Alors, parents, parrains, marraines, vos enfants, par leur baptême, seront chez elles dans la communauté chrétienne, qui sera leur famille spirituelle. Aucune contrainte ne les y retiendra, et si jamais elles venaient à s'en séparer de leur communauté, leurs places y resteront toujours marquées. Hein, ça, c'est quand même, je le dis souvent, on peut s'éloigner de l'Église, ça nous arrive par des circonstances multiples et variées, mais chaque fois qu'on revient, eh bien, on a toujours sa place. C'est toujours un très grand, très, très grand plaisir de voir revenir des gens, de dire sans qu'on pose des questions, qu'on accuse ou n'importe. C'est toujours un très, très grand plaisir, une grande joie de voir revenir quelqu'un. Donc, notre place est vraiment marquée dans la communauté. Voilà, pour répondre à la bonté de Dieu qui les reçoit dans son alliance, vous resterez pour elles un exemple et un appui. Vous prierez pour elles, les instruirez et les soutiendrez afin qu'elles parviennent elles-mêmes à la foi, qu'elles répondent un jour en toute liberté à la grâce attestée par leur baptême et qu'elles prennent part à la Sainte Cène. C'est là votre vocation, que ce soit votre joie. Alors, dans la mesure de votre foi, évidemment, vous nous avez demandé le baptême pour ces deux petites filles. Voulez-vous confirmer cette demande devant l'Église ?
Oui.
Oui.
Ah, c'est bien. Alors, vous toutes et tous qui êtes présents dans cette assemblée, vous êtes témoins de ce baptême et je vous invite à vous lever en signe de témoignage. Voilà, quel nom de baptême vous avez choisi pour cette petite fille ?
Claire.
Claire, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ne crains pas, Claire. Je suis avec toi depuis l'origine et pas à pas, je t'accompagnerai chaque jour de ta vie. Sois sans crainte. Je suis toisé avec un air sévère. Alors, quel nom de baptême vous avez choisi pour cette petite fille ?
Bérénice.
Alors là, j'ai gâché quelque chose, elle est arrivée tout sourire. Hein, Bérénice ? Bon, c'est fini. Voilà, je vous invite à prendre les engagements que l'Église attend de vous. Vous promettez de faire connaître à ces enfants la vérité chrétienne contenue dans l'Écriture sainte pour qu'elles puissent fonder leur assurance sur la grâce de Dieu attestée par leur baptême et devenir des disciples de Jésus-Christ. Vous les confierez à l'Église universelle, hein, qui les reçoit aujourd'hui afin de les préparer avec vous à confesser la foi de l'Église universelle, Jésus-Christ et le Seigneur. Est-ce bien ce que vous promettez ?
Oui.
Oui.
Très bien. Que Dieu vous donne la force de tenir votre promesse et de rester attaché à cette Église. Donc, voilà, Claire et Bérénice, dans cet ordre, exactement. Bien, je vous invite à les recevoir toutes les deux en manifestant votre joie, en les applaudissant. Père, quelle joie de recevoir des enfants qui sont si petits, si fragiles, qui ont besoin d'être pleins de confiance en leurs parents, leurs parrains, marraines, leurs amis pour pouvoir vivre et grandir. Finalement, ils sont un peu comme nous vis-à-vis de toi, Père, toi dont nous avons besoin et en qui nous plaçons notre confiance pour vivre. Nous te rendons grâce pour ces deux petites filles dans leur faiblesse, parce qu'elles ont besoin d'être aidées pour grandir et se lancer dans la vie, comme toi tu nous aides, pour grandir toujours sous ton regard. Oui, lorsque tu as dit « Laissez venir à moi les enfants, le royaume des dieux est à ceux qui sont comme eux », nous reconnaissons aujourd'hui cette parole à travers Claire et Bérénice. Oui, Père, bénis-les. Bénis toute leur vie, accompagne-les jour après jour. C'est une demande bien inutile parce que c'est une demande déjà acquise finalement. Bénis leur famille, leurs parents, leurs amis, afin qu'elles puissent sentir ta présence dans le monde à travers des gestes d'amitié, d'amour, de vie partagée. Amen. Et je vous invite à prendre le chant de 225. C'est peut-être prendre ma main dans la tienne si je me trompe. En entier. Attendez, je vous dirai. Voilà, le témoignage des parents va vous dire à travers deux textes qui sont plutôt poétiques, je trouve. Quand je les ai lus, c'est ce qui m'a frappé. Va dire un petit peu la reconnaissance et la joie des parents de Claire et de Bérénice.
Ma douce, ma fille, tu es née, Dieu est là. Ma petite Claire, je suis émue. Ma lumière, je reçois ton sourire, ton regard et ta voix comme un pas de plus vers la foi. Ma poupée, ma lueur, ma pépite, voilà que l'Éternel m'habite chaque fois que tu t'invites contre ma peau, ma chérie, ma petite. Ma source, ma loi, ma princesse, c'est avec force, gravité et tendresse que je prie pour toi, que je prie sans cesse, à tes amours, ton bonheur, ta jeunesse. Claire, mon enfant, Dieu est là. La vie tout entière s'ouvre à toi. Elle est généreuse. Saisis-la et crois. Sans trop de certitude, mais avec joie. Et si venait le temps de tes mélancolies, ne sois pas meurtrie, ma jolie. Il est des choses que le temps ne flétrit. L'amour que l'on se donne est infini. Dieu est là.
Bérénice, ma fille, toi pourtant si petite, tu nous émerveilles jour après jour et tu nous grandis. Ton existence a donné une autre dimension à ma vie, à notre vie. Tu es ma preuve d'amour qui me crie avec joie que Dieu existe. Dieu est là à travers toi, à travers l'amour incommensurable et charnel qui nous unit, à travers la profondeur du lien qui s'est créé entre ton papa et moi. Dieu existe à travers la force qui m'anime pour t'aimer et te donner tout ce qu'il te faut pour que tu vives dans la joie et la confiance. Je me remplis de sérénité en regardant la profondeur de cette nouvelle vie que Dieu nous offre. Bérénice, Dieu est là, près de toi, en toi et à travers toi. Et c'est aussi en nous réunissant ici tous aujourd'hui pour Claire et Bérénice, en devenant ce jour marraine de toi, Claire, que Dieu nous montre sa présence.
Voilà. Dans la lumière de l'amour de Dieu, je vous invite à rejoindre vos places et à entendre la parole.
Aujourd'hui partager avec vous deux extraits du livre de la Genèse. Chapitre 18, les versets 1 à 15, et puis je lirai dans le chapitre 21, les versets 1 à 7. Mon accent du sud peut vous faire sourire, vous avez le droit. J'amènerai un peu de soleil avec moi. Chapitre 18. Le Seigneur apparut à Abraham près du chêne de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit trois hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces. Puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Alors Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends trois grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras et le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs, avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux, sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme Sarah ?»« Dans la tente, » répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque. Et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même. Car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, « Maintenant je suis usée et mon mari est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Pourquoi, se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant ? Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser ? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, Sarah aura un fils. » Effrayée, Sarah nia. « Je n'ai pas ri, dit-elle. » « Si, tu as ri, dit le Seigneur. » Le Seigneur intervint en faveur de Sarah en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte. Alors qu'Abraham était déjà un vieillard et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Abraham nomma Isaac, ce fils que Sarah lui avait donné. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Sarah déclara, « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Et elle ajouta, « Qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » 251, voilà, je ne le voyais plus. Nous allons chanter le 251. Dieu a-t-il de l'humour ? À en croire le texte d'aujourd'hui, c'est tout à fait certain. Annoncer à une vieille femme qu'elle aura un enfant nous semble tout à fait impossible. Et l'humour, c'est justement ça. C'est tordre la réalité, décaler ce qui semble réel pour produire du rire. Sarah, qui entend cacher derrière l'attente cette promesse d'un enfant, a une réaction normale. Elle rit. Et quand l'humour est bien maîtrisé, bien placé, quand il rencontre son public, eh bien, il fait rire. Mais le rire peut aussi cacher bien d'autres choses. L'humour, parfois, peut avoir l'effet inverse de ce qu'il vise. S'il tord la réalité pour produire du rire, parfois il vient rendre la réalité, le principe du réel, encore plus visible, encore plus pesant. Et alors, alors le rire peut être jaune. Il peut être un rire blessé, un rire qui est là pour cacher les larmes. Et c'est peut-être le cas de Sarah. Peut-être que Sarah rit pour ne pas pleurer. Le réel dans ce texte est accentué par cette promesse. On lui annonce qu'elle aura un enfant. Bon, bien sûr, il y a de quoi se réjouir. On est heureux quand on nous annonce qu'on va avoir un enfant, c'est la plus belle des choses. Surtout quand on a attendu ça toute sa vie. Mais annoncer à cette vieille femme, qu'elle aura un enfant, c'est mettre en évidence ce qui est sa souffrance. Elle n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Son corps ne peut plus porter la vie. Et son corps ne peut même plus éprouver le plaisir de l'étreinte. Alors cette promesse de Dieu vient comme accentuer, souligner, mettre en évidence ce qu'elle est. Une vieille femme. Et la promesse vient accentuer, souligner ce qu'elle ne sera jamais. Une mère. Alors Sarah rit. Et comme on dit, il vaut mieux en rire que pleurer. Parce que le rire, finalement, vient un peu sucrer les larmes. Elle rit car, oui, elle est dans le réel, peut-être même enfermée dans le réel. Ce réel que nous connaissons tous et qui bien souvent nous domine, nous aveugle, nous enferme. Ce réel auquel nous donnons tant de pouvoir. Nous sommes alors un peu des fatalistes, pensant que le cours du monde suit sa trajectoire inéluctable et que nous ne pouvons rien y faire, rien changer. Les choses sont ainsi, nous devons l'accepter. Et ce fatalisme peut parfois nous prêter à rire, comme Sarah rit. Nous aussi, nous rions de ce destin qui nous rappelle le réel et nous rions pour ne pas pleurer. C'est un peu comme, c'est une autre réalité que je vis dans mes Cévennes que celle d'ici, mais il y a quelques jours, je fais des cultes de semaine dans des temples. J'ai 13 temples à m'occuper dans un rayon de 10 kilomètres. Alors je fais des cultes la semaine pour les quelques vieilles femmes du village. Eh bien, l'autre jour, nous étions 3 au culte. Le problème, c'est que la porte du temple était fermée et personne n'est venu nous ouvrir. Alors, avec ces 3, nous avons ri. Nous avons ri peut-être pour cacher simplement notre inquiétude, peut-être juste aussi pour cacher notre désespoir. Nous rions de tout ce qui nous arrive et qui, loin de nous rendre joyeux, parfois nous montre toute la dureté de la vie. Et oui, tout ne va pas comme nous le voulons, et nous avons bien souvent l'impression d'être en lutte avec ce réel qui nous rappelle, hélas, ce que nous sommes, le peu que nous sommes dans ce vaste monde. Et pourtant, face à ce fatalisme qui semble bien nous habiter, bien plus souvent que nous le pensons, et je vous invite, chaque jour, devant chaque situation, je vous invite à vous poser la question de savoir si vous n'êtes pas à un moment un peu dans du fatalisme. À chaque fois que vous allez vous dire que ce n'est pas possible, à chaque fois que vous allez vous laisser dominer par ce qui se passe au lieu d'y résister, pensez-y. Est-ce que je ne suis pas dans une forme de fatalisme ? Eh bien, face à ce fatalisme, nous voyons aussi bien souvent se produire ce que nous appelons, et m'ont appelé, l'ironie de l'histoire. Connaissez-vous l'histoire de ce pasteur Paul Rabaut ? Paul Rabaut, pasteur du désert, toute sa vie sera poursuivie par l'État, par les soldats du roi. Et sur ses vieux jours, son fils, Rabaut Saint-Étienne, devient président de l'Assemblée. Ironie de l'histoire, Ce fils, devenu un grand personnage de l'État, retourne un jour voir son père qui avait été persécuté toute sa vie pour lui dire « Père, l'État est à vos pieds ». Ironie de l'histoire. Peut-être nous faut-il savoir laisser du temps au temps, parce que le réel ne s'enferme pas uniquement dans le présent. Il doit se concevoir peut-être comme une évolution, comme un progrès possible. Et dans le texte, la promesse d'enfant pour Sarah, d'ailleurs, n'est pas pour tout de suite. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Oui, ami, oui, Dieu a vraiment de l'humour. Mais il n'a pas un humour ironique. Sa parole vient tordre le réel, et ce qui semble impossible devient alors possible. Et l'humour, c'est peut-être aussi ça. Ce qui est impossible devient possible. Beaucoup des histoires drôles que nous pouvons nous raconter sont basées là-dessus. Qui croit ici ? Qui croit qu'il est possible qu'un imam, qu'un rabbin et qu'un pasteur se retrouvent un jour sur un bateau au milieu de nulle part ? Eh bien, dans une histoire drôle, tout d'un coup, il n'y a plus de réel. On raconte quelque chose d'impossible, mais qui semble soudain réel. Et ça déclenche le rire. Et cette fois-ci, le rire ne cache pas les larmes. Le rire, s'il n'exprime pas la joie, en tout cas, rend joyeux. Et c'est ce qui va se passer avec Sarah dans ce texte. Quand l'année est passée, voici ce qu'il nous est dit. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Le Seigneur agit envers Sarah selon sa parole. Sarah fut enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela du nom d'Isaac, ce qui signifie rire, le fils qui était né de lui, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Alors Sarah dit, « Dieu m'a suscité du rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Et elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » La promesse de Dieu se réalise. Ce qui était impossible est devenu possible. Ce qui était impossible devient réel. Sarah et Abraham ont un fils, et ce fils va porter le nom de Rire. Dieu a suscité du rire et suscite toujours du rire. Mais ce rire n'est pas celui qui cache les larmes. Il est celui qui est le signe de la joie et du bonheur. Cette histoire, qui pourrait être une histoire drôle, et d'ailleurs Sarah dit que tous qui l'entendront riront, cette histoire vient simplement nous dire que nous ne devons pas rester enfermés dans un réel qui nous montre l'impossible, mais qu'au contraire, Dieu est la force qui permet à tous les possibles de devenir réel. Et c'est pour nous la source même de l'espérance. Chaque jour de notre vie, quand nous avons envie de baisser les bras, quand nous pensons que les choses sont ainsi, qu'il n'y a rien à faire, quand nous nous laissons abîmer par ce qui se passe autour de nous, et qui nous plonge dans l'angoisse, dans la tristesse ou dans la peur, il nous faut nous rappeler cette histoire. Il nous faut nous rappeler que Dieu suscite du rire, qu'il appelle au rire, au vrai rire, celui de la joie, parce que rien n'est impossible. Rabelais a dit que le rire est le propre de l'homme. Et c'est justement à cela que Dieu nous appelle, être des humains dont le propre est de rire. Une femme de lettres britannique a écrit: le rire, plus que tout, nous aide à voir les choses à leur juste proportion. Il n'a de cesse de nous rappeler que nous sommes de simples humains, que personne n'est jamais un parfait héros ni un fiefé coquin. Dès que nous oublions de rire, nous perdons le sens des proportions et avec lui le sens de la réalité. Dieu, en suscitant le rire, nous permet de prendre donc pleinement conscience de ce réel et en même temps, il nous invite à nous en libérer. Nous n'en sommes plus prisonniers, mais nous avons l'assurance qu'il est dominé et surtout qu'il reste ouvert et qu'il nous appelle toujours à la vie, à la joie et au bonheur. Oui, Dieu veut nous voir joyeux dans ce monde. Pour cela, il nous demande d'avoir de l'humour, comme lui-même a de l'humour. Il nous invite à voir les choses autrement que uniquement comme elles nous apparaissent. Et il nous demande de croire toujours à l'impossible qui se réalise. Alors il ne s'agit pas, bien sûr, de prendre tout à la légère. Il ne s'agit pas de penser que rien n'a d'importance. Mais c'est peut-être justement redonner l'importance qu'ont les choses sans leur en donner plus qu'elles n'en ont. C'est replacer les événements de notre vie à leur juste place pour pouvoir rire au lieu de pleurer. Victor Hugo a dit « Faire rire, c'est faire oublier ». Quel bienfaiteur sur la terre qu'un distributeur d'oubli. Dieu est peut-être ce bienfaiteur qui ne nous fait pas oublier notre réalité, mais qui nous permet juste d'oublier l'impossible qui nous enfermerait pour nous ouvrir pleinement au possible de chaque jour. Aujourd'hui, deux petites filles parmi nous ont reçu le baptême. En les baptisant aujourd'hui, nous voulons pour elles ce demain ouvert, cette force de croire contre toute espérance, cette joie si humaine et pourtant si divine que ces deux petites filles, Claire et Bérénice, soient pour nous le signe aujourd'hui de ce rire que suscite Dieu, de cette espérance et de cette promesse qu'il nous adresse chaque jour. Elles sont aujourd'hui pour nous tous le signe de cette vie qui est appelée à grandir dans la joie et le bonheur. Et aujourd'hui, nous voulons leur souhaiter beaucoup de rire dans leur vie. Frères et sœurs, comme le dit le poème, prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps d'être joyeux. Et quand viendra l'épreuve ? Rappelez-vous cette promesse que Dieu a faite à une vieille femme qui rit pour cacher ses larmes, mais comprend que Dieu veut lui offrir le rire à travers un enfant pour que sa vie entière soit dans la joie. Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer, mais n'arrête pas la pluie. Amen.
Thank you.
Merci, merci Christophe pour ce message qui porte sur l'humour. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 38 ans, j'arrive sur le plateau Lorrain, et premier culte. En tant que pasteur de paroisse, j'avais fait quelques cultes en tant qu'étudiant, comme ça arrive. Donc j'arrive au temple, la porte est fermée, et il n'y a personne. Arrive une dame âgée en pantoufles, je m'en souviens encore. Bonjour madame, etc. Je suis le nouveau pasteur, enchanté, etc. Est-ce que vous avez la clé du temple ? Ah ben non. On attend, une deuxième arrive, pareil. Troisième arrive, pareil. C'est tout. Et grâce au ciel, la troisième était arrivée en camping-car. Donc on a fait le culte dans le camping-car, avec Sainte-Seine. Et on était un peu serré là-dedans quand même. Donc je rentre chez moi après et mon épouse me dit « Alors il y avait du monde ?» Ben, j'ai dit « Oui, la salle était pleine. » Alors elle me dit « les yeux grands ouverts, ben, ils étaient combien ?» Ben, ils étaient trois. Alors évidemment, je lui raconte et évidemment la salle était pleine. Mais au mètre carré, il y en avait autant qu'ici au mètre carré. Hein. Voilà. Mais c'est une histoire vraie, hein, c'est pas une blague. Pardon. Le dimanche après, ils étaient 8. J'aime bien. Hein. Comme quoi, hein, il faut espérer. Alors, sur ce plateau lorrain, j'ai été aussi confronté à, tout de suite aux questions financières. Tout de suite. Un pays touché par les crises économiques, avec des poches de pauvreté et de misère même, importantes. Et les questions financières, évidemment, étaient des questions brûlantes. Elles ne m'ont jamais quitté de tout mon ministère. Dans toutes les paroisses où je suis passé, il y a toujours eu des questions financières. Soit la cible à réaliser, soit la toiture du temple à refaire, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, tout le temps. Et ce qui est assez curieux, et là aussi il faut une certaine dose d'espérance et d'humour, c'est de constater qu'on a toujours des problèmes financiers, mais que l'Église est toujours là. Si vous ne croyez pas au Saint-Esprit, c'est quand même une preuve qu'il y a quelque chose qui tient à l'Église, hein, et qui nous dépasse infiniment. Ceci étant dit, il ne faut pas que ça vous dispense de ne pas de participer à l'offrande, car l'offrande, il y a, vous n'allez pas y échapper, ne croyez pas une chose pareille, je veux dire. Mais bon, j'espère que vous serez plus que trois à participer à l'offrande. Bon, ben, c'est une autre histoire. Je continue sur mes annonces. Le samedi 24, Laurent, si je me trompe, c'est bien le 24, il y a le groupe Évangile et Liberté. Je rappelle que Christophe Cousinier fait partie de l'association, hein, d'Évangile et Liberté. Il y a une association Évangile et Liberté, il y a le comité de rédaction. Hein, pas tout à fait la même chose. Enfin bon, il y a évidemment, c'est le même ensemble, ça va de soi. Donc, il y a un groupe Évangile Liberté qui fonctionne ici. Voilà, il y en a beaucoup dans le sud de la France, mais passé un certain parallèle, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, si vous voulez écouter votre pasteur, vous pouvez toujours écouter la radio à 13h15. Il doit y avoir un cycle biblique sur Jérémie. Voilà, le dimanche prochain, le culte sera présidé entièrement par le pasteur Dantan, qui est aumônière des aérodromes à Paris. Voilà. Donc je dis en entier parce que là, je n'y participerai pas du tout. Pour la bonne raison, c'est que je serai un petit peu en retrait pendant quelques jours. Voilà pour les annonces assez proches. Un peu plus loin, je vous rappelle que l'Assemblée générale de la diaconie de l'entraide, c'est le 11 mars, et que l'Assemblée générale de la paroisse, c'est le 18 mars. Je ne me suis pas trompé, les conseillers, hein. C'est ça, hein. Voilà. D'autres annonces, sans rien oublier. Ah bon, on y va pour l'offrande, alors. Pas de souci. Pour vous encourager, on va prendre le 298. Vous voyez, ça est très connu aussi, hein. Voilà, au moment de partager notre prière, nous pensons bien évidemment à Claire et Bérénice, mais aussi à tous les enfants du monde pour lesquels nous voudrions un avenir plein de promesses et de joie, mais nous savons que pas toujours très très simple, hélas. Nous mettons tout ce petit monde au Père. Pensons évidemment au monde qui a besoin qu'on pense à lui. Tous ces êtres vivants qui sont là, très loin de nous, que ce soit au niveau géographique ou au niveau social, si je puis dire. Il ne faut pas oublier tout ce monde, bien sûr. Et puis la création qui est tout autour. Et puis les églises aussi, qui réunissent parfois que 3 paroissiens, et quelquefois un peu plus, évidemment. N'oublions pas que cette parole qui nous fait vivre, nous la voudrions pour des gens que nous pouvons nommer, qui sont dans des situations difficiles et parfois dans des moments heureux. Moment de baptême, par exemple, quand on est dans un moment heureux ou moment de deuil, dans un moment malheureux. Il y a tant de choses à remettre au Père. Nous voudrions la paix, la communion des hommes et peut-être des choses secrètes que nous voudrions remettre à Dieu. Tout cela, nous le remettons dans notre prière. Notre Père, toi qui es au cœur de nos vies, ton nom est magnifique. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde et que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes, toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations et aux forces du mal. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous avons eu le plaisir d'avoir un culte marqué par la joie et l'humour. Et je trouve ça formidable. J'ai toujours pensé que Dieu avait de l'humour parce que pour créer l'homme à son image, il lui fallait une certaine dose d'humour. Mais oui, il faut de l'humour. Et je crois que le monde en a besoin. Aujourd'hui, vous êtes porteur de cet humour grâce à Christophe, grâce à ses enfants. Vous êtes porteur de joie aussi. Quand vous sortirez là pour aller dans le monde les uns les autres, avec vos manières d'être et de faire, vos approches différentes, vraisemblablement, n'oubliez pas cette joie, cet humour, parce que le monde en a besoin et vous en êtes les témoins. Ainsi, vous êtes les prophètes du Très-Haut qui vous appellent et qui appellent le monde à la vie. Allez en paix. Allez en paix dans ce monde. Soyez vraiment dans la joie. Et sachez rire quand il faut rire et prendre le recul quand il faut prendre du recul. N'oubliez pas aussi d'accompagner celles et ceux qui sont dans la peine. Et pour tout cela, tous les actes de vos vies, n'oubliez pas que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénit à chaque instant. Allez en paix, maintenant et à jamais, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et pour finir ce culte, je vous invite à prendre le 205. À toi la gloire.
semaine. Voilà, je vous invite à entendre encore quelques notes de musique qui vont tomber de là-haut. Vous vous réjouir. Et puis n'oubliez pas de signer les registres de matin à la fin de ce morceau de musique chose de soir.
J'ai signé.
Ah, c'est bien.